Moi, c'est André de Mbujima, locataire oriental. Je réfute totalement ce que
tu... Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci d'écouter Radio Okapi qui vous accorde la parole au travers de cette émission Parole aux auditeurs, votre cadre d'échange citoyen. De plus en plus sur les réseaux sociaux se multiplient les messages de désinformation, n'hésitant pas à relayer les fake news sur les activités de certaines organisations internationales partenaires de la RDC. Selon Facebook, il s'agit d'une vaste opération de manipulation à laquelle se livrent même certains militants de la scène politique congolaise. Que faut-il faire pour décourager ce cybermilitantisme en RDC? En d'autres termes, les réseaux sociaux et le militantisme politique en RDC, un enjeu ou un défi pour sa démocratie? Nous en parlons dans cette émission avec professeur Kodjo Ndokouma, qui est expert en numérique. Et nous allons au fait échanger également avec vous, chers auditeurs, partout où vous êtes, au pays et à l'étranger. Vous pouvez également composer les 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité d'interagir ensemble avec nous sur notre page Facebook ou encore sur www.radiocapi.net. Jirlungue Boluabung Angie est à la coordination et à la présentation de cette émission qui bénéficie du concours à la réalisation de Dieudonné Nyangasa et Marcel Ngombombala Keba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Kodjo Ndokouma, professeur, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci de nous avoir honoré de votre présence dans ces studios. Les réseaux sociaux et le militantisme politique, enjeu ou défi pour la démocratie, la jeune démocratie en RDC?
Bon, vous savez, l'Internet aujourd'hui n'est pas seulement une infrastructure de l'information, c'est aussi une infrastructure de liberté. Mais vous savez que c'est l'audace qui a engendré la liberté et la peur a engendré la sécurité. Et les deux ensemble ont formé la sagesse. Alors, il faut d'abord donner un ordre de grandeur des choses. Mai 2019, les modes d'accès à l'information au cours des 30 derniers jours, selon l'audiométrie de Target, la radio, c'est seulement 68% des gens qui s'informent par la radio, la TV, 48%, ça c'est en 2019, et l'Internet a une constance depuis 2 ans où 24% de la population congolaise s'informe par l'Internet, au moins la population connectée. Les chaînes câblées, c'est 16%. Et la presse écrite, c'est 2%, alors que, bon, 2018, c'était 1% par la presse écrite. Et sur Facebook, qui semble être l'archétype de tous les réseaux sociaux que les Africains aiment bien utiliser, et les Congolais en particulier, on a 2,7 milliards de personnes qui sont sur Facebook. Ça veut dire que nous... 2,7 milliards. Donc, ça veut dire que nous avons plus ou moins 3 humains sur la planète qui sont au moins sur Facebook. Et puis WhatsApp, c'est 400 millions des comptes. Alors, on doit savoir que Facebook avait racheté WhatsApp en 2014. Et que souvent même, il y a la synchronisation qui se fait entre les numéros de téléphone que vous utilisez sur WhatsApp et votre profil sur Facebook. Donc, à partir de ce moment, on donne encore un dernier chiffre. C'est que au deuxième trimestre 2020, nous avions 38 millions de Congolais qui sont abonnés à l'un ou l'autre réseau téléphonique. Il y en a 4 mobiles, 38 millions.
Pratiquement la moitié de notre population.
Pratiquement la moitié de notre population, mais ceux qui utilisent Internet mobile sont 17 726 000 selon l'autorité de régulation de postes et des télécommunications. Maintenant, le profil de ces personnes qui sont sur Internet, donc les 17 millions de Congolais qui sont sur Internet et qui représentent 24% du mode d'accès à l'information, ce sont des jeunes qui sont entre 17, 24 ans et puis vous montez encore. Donc à partir de ce moment, nous remettons l'information comme un élément, une clé de sécurité, une clé de démocratie, mais une clé de liberté aussi. Maintenant, dans son usage, l'information prend plusieurs sens. Soit c'est de l'information, c'est de l'art informatif, soit alors l'information prend le sens de la propagande. Et c'est là qu'on entre finalement dans notre sujet des armées numériques des partis politiques, qui n'ont que comme Kalachnikov, leur clavier et puis leurs appareils photo pour faire peut-être même des montages. Et puis l'information peut servir à la désinformation. Alors c'est là qu'on entre carrément dans ce qui est stratégique pour l'information. Quand on est entre partis politiques, entre militants politiques, on essaye de jouer à la liberté d'information, mais dans deux buts. Soit d'entraver la démarche de l'autre. Ça signifie qu'on est plus ou moins au courant qu'il y a, je sais pas moi, des consultations nationales et on veut se montrer peut-être non intéressé ou que ce serait pas dans le succès ou pas dans l'échec pour être neutre. Alors, on entrave la marche d'une action qui est en train de se faire pour déstabiliser l'adversaire et lui dire ce que vous faites ne nous fait rien. Tout autant qu'aussi on peut faire la communication d'influence. On veut utiliser l'information pour produire une certaine attitude pour une finalité bien précise. Peut-être aujourd'hui, on le remarque, dans les différents armées numériques, on sent qu'il y a des gens qui travaillent à creuser les fossés entre les personnes qui sont censées être dans une alliance. Et ça fait le jeu de qui ? Ça fait les jeux de ceux qui veulent une ligne dure ou ça fait les jeux de ceux qui veulent plutôt que les gens se mettent ensemble pour avancer.
Et pour ces pays, ils diffusent des fake news.
Bon.
Des fake news pour arriver à leur fin.
Voilà.
Une information qui n'est pas vraie.
Un Fox.
Parce que, ouais, oui. Fox,
ouais. Un Fox ou on peut même ajouter un Fotox. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le malheur avec les algorithmes d'Internet, ça veut dire ce qui fait l'intelligence de l'Internet. L'Internet, c'est un grand annuaire où tout le monde met les informations et s'il n'existait pas de moteur de recherche ni des hashtags, on ne saurait pas suivre le fil de l'info. Mais ce qui se passe avec les algorithmes d'Internet, une fois qu'il y a une information qui est postée, l'algorithme ne s'intéresse pas à la véracité de l'information. Tout ce qui l'intéresse, c'est le nombre de personnes qui y accèdent et en plus, le moteur de recherche le propose
quand,
en premier.
Quand vous parlez d'algorithme, un terme simple, c'est des instructions, une série des instructions qu'on donne à un programme pour arriver au résultat.
Oui, voilà.
Donc, terme simple.
Voilà, quand on tape un mot sur Internet et qu'on a besoin d'une série d'informations, l'information qu'Internet nous donne dans les instructions, c'est les informations les plus vues et non les plus qualitativement vraies. Et c'est comme ça que l'Internet lui-même alimente les fake news. Après, maintenant, vous avez les formes de sécurité qu'on peut faire. Vous avez deux paradigmes importants. Le paradigme chinois, où on censure. Ils ont la capacité... selon la ligne idéologique du parti et c'est ou selon la ligne de ce qui est acceptable pour leur mode d'organisation politique de supprimer certains contenus et ou d'en interdire l'accès pour certains Chinois. Là, c'est la censure pure. Et puis vous avez le modèle américain où finalement ils utilisent plutôt les moyens de surveillance générale. Et par mots-clés, ils savent remonter le fil d'un certain nombre d'informations. Mais malheureusement, les Américains eux-mêmes ont été pris au piège dans l'élection passée de Donald Trump.
Plus de 100... Avec la piraterie attribuée aux Russes.
Voilà. Plus de 120 millions d'électeurs américains ont été influencés par ce qui était vraisemblablement vrai ou virtuellement faux sur Internet. Et puis, vous avez également le même risque avec TikTok. Ça veut dire c'est un produit comique qui circule sur les réseaux sociaux, qui vous permet d'enregistrer des gags, qui vient de la Chine. Alors les Américains se sont dit que ces fake news, qui ont bien sûr le label TikTok, donc c'est des fake news, pouvaient influencer un comportement dans leur société et nuire à leur démocratie. Donc ça, c'est les grands modèles. Maintenant, ici au Congo, si on applique cela, il y a des gens, c'est assumé, qui utilise chacun de son côté des armées numériques. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'observation que nous faisons, et en 30 secondes on le dit, dans le passé, tous les tirs étaient dirigés vers une personne qui semblait ne pas assurer...
Kabila, vous voulez dire.
Voilà. Oui, on reste quand même...
Le Congo, c'était Kabila.
Voilà. Si vous me le dites, et je vais dans la précision. On se rend compte qu'avant l'alternance, il y avait vraiment toute une bulle de fake news, toute une bulle de surveillance très serrée, toute une bulle d'attaque informationnelle qui était orientée vers une personne du nom de Kabila. Lui-même l'a dit dans une interview, hein, qu'il a vu une montée de l'anti-lui, et c'était pour un but. Mais maintenant, ces armes n'ont pas été retirées aux mêmes internautes qui ont le pouvoir du clic et le pouvoir du buzz. Et ils l'utilisent maintenant Alors, de manière plus diffuse.
Voilà, on va être clair, parce que les auteurs qui nous suivent, ils veulent intervenir dans cette émission. Professeur, docteur Kodjo Ndokouma, je peux dire docteur, professeur Kodjo, on sait que le débat politique aujourd'hui à RDC, c'est fortement bipolarisé.
Oui.
D'un côté, il y a des gens qu'on qualifie, je ne sais pas, par certains observateurs, des talibans, d'autres, des Kabylie. Alors, finalement, les gens ne se supportent pas jusqu'au point même des débats. En fait, ça change en injures ou même en des insultes. Alors, comment voyez-vous, c'est là un grand défi à relever. Est-ce que ça ne peut pas à travers notre jeune démocratie?
Oui, mais vous savez, parce que vous parlez de démocratie, il y a la loi de 1996 qui est venue après la déclaration de la transition par Mobutu, assurer la liberté de la presse. Et dans cette loi qui organise la liberté de l'information, il n'est reconnu que la presse audiovisuelle et la presse écrite. Et toute liberté, c'est comme de l'herbe. Si ce n'est pas cultivé, ça devient de l'herbe sauvage. Toute liberté doit pouvoir être régulée et il doit y avoir une autorité publique qui suit l'activité. Alors, l'Internet ou le cyberespace, les réseaux sociaux, c'est un espace non régulé, où les personnes sont motivées par l'anonymat. Eux-mêmes le disent, ils sont des avatars informatiques. Mmh. Ça veut dire, vous ne pouvez pas savoir quelqu'un qui est derrière le téléphone. Deuxième chose, c'est dans la culture. Tout le monde dit en lingala, et je vais traduire, « Moutunyo sozalakambinga, nasima téléphone nae ». Ça veut dire, vous avez quelqu'un qui, pour bien vous insulter, il ne peut pas le faire en face, il prend son téléphone et il vous anonymise et il vous insulte correctement. Et puis vous avez cette moralisation politique qui remonte quand même à un certain temps. On a pensé que quand on bravait une autorité par le fait qu'on l'insultait, par le fait que on était très acerbe dans les propos avec lui, qu'on faisait vraiment en ce moment-là l'opposition ou la vraie politique. Lorsque quelqu'un est modéré, ça ne se fait pas. Bon, et puis vous avez ces deux factions de jeunesse. Il y a eu à un moment donné dans les partis politiques, c'est qu'on a pu appeler la jeunesse désœuvrée, on a pu appeler la jeunesse intellectuelle et on a appelé la jeunesse militante. Alors maintenant tout le militantisme politique s'est révélé dans Internet, parce que chacun veut une reconnaissance de son parti en disant moi je suis le plus virulent, je me suis attaqué à monsieur Kitenge Yezu, je le cite parce que c'est lui qui est quand même une grande personne et qui est souvent sur Internet, et on est content que voilà, on fait suivre,
j'ai défié tel
parce que ça devient une communication horizontale, l'autorité de la personne. Ou encore, voilà, je suis, j'ai pu écrire à ma tata Pogno jusqu'à ce qu'il m'ait bloqué. Ouais. Et quelqu'un est content qu'après avoir vraiment harcelé une personne X, que
qu'on le bloque. Dire, le gars qui a ouvert les guépiers ne savait pas les fermer rapidement.
Absolument. Et puis ces jeunes aujourd'hui sont utilisés par des hommes politiques plus adultes parce qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes signer un certain nombre de documents ou même d'affronts de face. Et donc vous avez une personne dans ce pays qui avait eu 64 comptes Facebook à lui-même. Ça veut dire que ça dérange Facebook dans le sens où Facebook suit les tendances de la consommation du produit qui est l'information. Et c'est un milieu de loisirs, c'est à usage récréatif, à usage social que le réseau social est. Alors lorsque quelqu'un a 64 comptes et il gère maintenant l'image d'un homme politique, en fait, il est en train de biaiser l'audimat et il est en train de biaiser également l'information.
C'est intéressant, on va prendre les auditeurs et puis on revient à vous. 081-890-6330 ou encore le 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Voilà, Maître Edmond, vous êtes un Bandaka. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs, Maître.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour également professeur Kodjo.
Alors comment réagissez-vous par rapport à notre thématique du jour, les réseaux sociaux et le militantisme politique, un enjeu et un défi pour la démocratie en RDC?
Merci beaucoup. Je salue le professeur que j'ai exploité l'un de ses publications liées sur la cybercriminalité. Je pense que le problème qui se pose actuellement dans notre pays, le problème de la démocratie, parce que vous allez voir que la démocratie, c'est un des piliers d'un état de droit. Je crois que le professeur a abordé largement l'aspect numérique. Mais ici, chez nous, au Congo, le problème qui se pose, c'est la politique. Les politiciens, bien sûr, qui nous gèrent, ce sont les politiciens qui sont à la base de ce qui se passe, de ces, excusez-moi les termes, de ces hérésies cybernétiques qui se passent au niveau des réseaux sociaux. Mmh. Vous allez voir que ailleurs, par exemple en France, c'est depuis 1978, où il y a une loi sur la sécurité numérique, et dans cette loi, par exemple, vous allez voir que lorsque vous arrivez en France, que vous avez un laptop, vous avez un téléphone, vous êtes identifié et chaque téléphone ou chaque appareil a un numéro ou une adresse IP. Voilà, je crois que le professeur qui est mieux présent pourra nous expliquer. Voilà. Mais ici chez nous, moi j'ai mené des études sur la cybercriminalité, notamment les droits de l'informatique, où nous avons une loi par exemple de 1987, obsolète d'ailleurs, qui n'est pas en vigueur. Le grand problème ici chez nous, d'abord, il faut que le législateur congolais puisse voter une loi sur les nouvelles technologies de l'information. Je crois qu'il y a un député qui est professeur, qui a initié une proposition comme ça, où on ne sait pas où en sommes-nous. Voilà. Le grand problème d'abord, voter cette loi, en fait que tous les utilisateurs des réseaux ou de l'Internet soient identifiés, parce que on peut avoir une brigade, comme ailleurs, en France, et en Belgique, et en Europe, en Amérique. Nous avons une brigade qui permet d'identifier tous les appareils connectés sur le réseau. Dans ces moments, on saura que non, c'est telle personne qui utilise, c'est telle personne qui utilise. Vous allez voir que le problème qui se pose chez nous, c'est parce que c'est la politique, ce sont les gens de la politique, ce sont les politiciens qui utilisent les internautes.
Et ce donc c'est devenu comme une guerre numérique, hein une guerre numérique en politique.
Secteur, oui, soit régulé, soit réglementé, voilà. Allô.
Donc, si je comprends bien, vous faites allusion à cette guerre numérique. Et chaque politique a cette armée, au fait, en utilisant parfois des jeunes, comme l'a dit notre invité, au niveau des réseaux sociaux, pour rendre compte à tel ou à tel autre politicien.
Exactement, exactement. Voilà pourquoi, depuis longtemps, les chercheurs, les professeurs, coach, même moi qui est plus dans ce domaine du droit de l'informatique, nous avions proposé la mise sur pied d'une loi qui peut protéger les numériques au Congo. Et ce sont les politiciens, si je parle, je fais allusion aux parlementaires, au gouvernement.
Est-ce qu'aujourd'hui on peut le dire, sans être contredit, que c'est l'Internet qui fait la loi en politique aujourd'hui, à RDC?
Mais exactement, c'est ça. Tout ce qui se passe aujourd'hui est dépravé par l'Internet. Et derrière, ce sont les politiciens. Et là, il n'y a pas la démocratie. Parce qu'il y a des fake news, il y a des fausses informations, des intox, comme le professeur l'a expliqué. Et ça, c'est au bénéfice des politiciens. On utilise tout le monde, et les journalistes, et les juristes, et les politiciens, tout le monde est utilisé, et au bénéfice des politiciens. Et c'est une guerre entre les gens qui sont dans la politique.
Merci beaucoup, Maître Edmond, d'avoir appelé. Alors, Jean-Baptiste, vous êtes à Kisangani. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs, Jean-Baptiste.
Bonjour Monsieur Jure, je ne sais pas si vous m'écoutez très bien parce que là il pleut ici, j'espère la qualité.
Voilà, la communication elle est très bonne. Quelle est votre contribution?
D'accord, merci beaucoup. J'étais quand même en rappeler que je suis étudiant à la science de formation et des communications à l'université de Kisangani. C'est un sujet hyper important qui concerne d'ailleurs mon domaine. Et aujourd'hui, il est évident que nous assistons dans ce qu'on appelle le combat numérique, la guerre numérique, comme on vient de les souligner récemment mes prédécesseurs. Et c'est évident qu'aujourd'hui, chaque leader politique va utiliser les gens, ses proches, pour manipuler, n'est-ce pas, pour gagner un peu plus de crédibilité, soit jouer ses jeux politiques. Et par contre, d'abord, moi, personnellement, je tiens d'abord à appeler tous les utilisateurs à la conscience, vous voyez, tout ça. Comme le professeur l'a dit, le réseau social aujourd'hui constitue une infrastructure de liberté. Alors, quand on ne parvient pas à mettre là une conscience dans cette liberté-là, automatiquement, on s'inverse dans le libertinage. Et c'est très dégradant. Aujourd'hui, bien évidemment, avec les infox, les intox qui surgissent sur les réseaux sociaux. Et deuxièmement, je tiens même à rappeler que les réseaux sociaux en général, je cible plutôt le Facebook et tant d'autres, ne font pas aujourd'hui partie ne sont pas sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Mmh. Et cet organe, on le sait bien, c'est l'organe qui surveille le fonctionnement des informations, des communications et des audios des différents organes, bien sûr, de la radio. Mais malheureusement, les réseaux sociaux aujourd'hui ne figurent pas sous le contrôle.
Jean-Baptiste, parce qu'on sait que c'est l'Internet qui a été à la base du printemps arabe, par exemple. Et est-ce que vous ne redoutez pas que l'Internet aujourd'hui soit aussi un danger pour la jeune démocratie en RDC?
Alors, l'Internet est à la fois un danger et à la fois aussi une opportunité de la communication. Alors, donc, c'est un danger si on ne parvient pas à mettre une conscience, comme il y a un auteur scientifique qui l'a dit, une science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Donc, si on ne parvient pas, bien évidemment, à mettre de conscience dans tout ce que l'on fait, même l'Internet, comme il est là, si on n'y met pas une conscience, bien évidemment, c'est la ruine, c'est un danger, c'est un péril pour notre démocratie en général.
Donc, si je comprends bien, il faut revoir les normes, il faut revoir les lois relatives à ces secteurs pour aider tant soit peu à avancer et sauver notre démocratie.
Bien évidemment, c'est exactement ça. Donc il va falloir un peu régler certaines lois qui peuvent contrecarrer ce genre d'habitude. Mais ce qu'il faut savoir, que c'est très difficile de répertorier le ZFOX, leurs origines. C'est un combat mondial, c'est pas un combat tout simplement de la RDC, mais chose désolable, mais pour les attraper, c'est très difficile. Donc il va falloir à la fois que Facebook, cette société, puisse au moins essayer de trouver des dispositions dans son fonctionnement.
Voilà, je disais tout à l'heure que l'Internet l'Internet est bipolarisé. Et d'un côté, en tout cas sur le plan politique, il y a ceux-là qu'on qualifie des talibans, et de l'autre côté, la Kabylie. Alors, comment voyez-vous l'avenir?
Bon, je sais.
Allez-y, Jean-Baptiste.
Oui, là on s'attend pas bien. Est-ce que vous pouvez reprendre votre question?
Oui, je disais, bon, certains observateurs l'ont dit et l'ont même mentionné dans notre commentaire que aujourd'hui l'Internet sur le plan politique est bipolarisé. D'un côté, ceux qui soutiennent, qui sont vraiment les pro-UDPS, et de l'autre côté, ceux qui soutiennent le régime passé.
Exactement, ça c'est ça. Donc on prend l'Internet comme outil
dedans
politique. Pour jouer avec ça, le genre de l'IDPS, il joue contre les gens de l'FCC, de Joseph Kabila, et le genre de Joseph Kabila, il joue contre, donc il y a un tiraillement, donc il faut falloir qu'on arrête avec ça, cette histoire, et qu'on prenne des dispositions de loi, qu'on revoie ça, et qu'on punisse ceux qui seront
attaqués. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, d'avoir appelé de Kisangani. On va retrouver Franck de Vienne, en Autriche. Franck, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci mon ami Gilles, merci à l'invité, au le prof, merci à tous les amis avec qui nous allons nous échanger.
Quelle est votre contribution, Franck?
Oui, merci beaucoup. À travers les statistiques énumérées par le prof, nous pouvons déjà tous nous rendre compte sur l'apport de cet outil dans les secteurs de la communication par rapport au partage des informations et surtout sur base de la vitesse avec laquelle on peut cibler un grand nombre de personnes à base des Syriens. Mais par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire ici, je crois que le vrai problème se pose sur la manière d'utiliser cet outil. Est-ce qu'il est utilisé pour des fins positives ou bien il est seulement utilisé pour des ruses? Et en argumentant quelque part, vous avez fait allusion au printemps arabe, si nous pouvons encore nous rappeler de ce qui s'était fait il y a quelques années au niveau de l'Afrique du Nord, l'Internet a aussi aidé à ce que certaines révolutions puissent s'opérer et ça pouvait être bien vu pour le bien de la population. Mais si nous devons maintenant rentrer au niveau de notre contexte typiquement congolais, je crois que en argumentant du point de vue scientifique, il y a aussi lieu d'évoquer d'abord quelques problèmes internes que nous avons au niveau de notre système éducatif, au niveau du système de formation intégrale. Mon ami Gilles, de plus en plus nous argumentons sur la vision de l'éducation, la vision de la formation. Combien de citoyens congolais ont d'abord un accès adéquat à l'éducation, à la formation intégrale? Combien de Congolais ont d'abord des accès convenable à l'information et à la bonne information, et combien les Congolais ont quand même un degré critique, un niveau pour critiquer certaines informations qu'on met à leur disposition. Et je pense que c'est à ce niveau-là que le combat numérique, ou moi j'appelle ça en terminologie sociologique, la compétition médiatique se joue. Parce que si vous avez maintenant une classe d'hommes politiques qui savent que nous avons des citoyens pas convenablement formés, mais ils se jouent de ces gens-là parce que eux maintenant se cachent derrière, ils placent leur journée en avant, va insulter tel, et comme quelqu'un peut se servir de son téléphone pour diffuser des émissions, comme quelqu'un peut se servir de l'Internet pour dire n'importe quoi, c'est comme ça qu'il y a toutes ces maladies que nous sommes en train de perdre. Et je crois que dans le contexte congolais, il y a aussi d'abord ce problème de niveau intellectuel. Parce que si on avait des Congolais convenablement préparés, convenablement formés, qui savent un peu comment on doit utiliser cet outil, je crois qu'on n'arriverait pas à des déviations telles que ça se passe chez nous. Parce que chez nous, quand il y a une information qui circule, il faut avoir un peu de niveau pour se dire « ça peut être vrai, ça c'est seulement des fake news ». Et dans la plupart des cas, ce sont des laboratoires politiques. Et ces laboratoires politiques sont gérés par des mineurs intellectuels. Mais eux, étant intellectuels, ils veulent se cacher, mais ils placent maintenant des pions, des gens qui n'ont pas de position, des gens qui ne savent pas discerner, mais malheureusement, parfois, en parlant de ces gens, il y a même...
Mais ce qui est dommage,
mais qui se laisse manipuler.
Oui, ce qui est dommage, Monsieur Franck, même dans des débats purement intellectuels ou scientifiques, on se rend compte qu'il y a des pseudo-intellectuels qui s'y mêlent, ou qui s'en mêlent, quoi, pardon.
Mais justement, mon ami, c'est pour dire, c'est comme ça que je dis, qui est encore intellectuel chez nous, mon ami Gilles? Quand nous faisions les humanités, on pensait que si on devient docteur, c'était la sommité, c'était le sommet. On pensait que si vous avez un titre de licence, donc vous êtes déjà de la race rare dans la société. On pensait qu'avec un graduat, on pouvait s'affirmer. Mais nos parents qui nous ont scolarisés, ils n'avaient pas autant de titres académiques universitaires. La plupart n'étaient pas des docteurs. De nos jours, nous avons des docteurs, nous avons des licenciés, nous avons des ingénieurs, mais c'est pour quel rendement intellectuel? Parfois, quand c'est un docteur qui argumente, on se pose des questions, mais il le vraiment ou c'est seulement un titre dont il ne sait même pas la valeur.
Merci beaucoup, Franck.
Les problèmes d'éducation, les problèmes de formation intégrale en République démocratique du Congo, c'est un problème à repenser.
Voilà. Donc, je crois que comme vous inscrivez cela dans le cadre d'un problème purement transversal, et merci beaucoup parce qu'il faut impliquer aussi les domaines de l'éducation pour voir comment on peut trouver une solution dans ce secteur. Le militantisme dans les réseaux sociaux, enjeu ou défi pour la démocratie en RDC, Christian Politassi, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour et merci J.R. Ngembo, je salue l'invité et tous les auditeurs.
Quelle est votre contribution, Christian?
J.R., mon prédécesseur vient là soulever des très très importants points. Et à cela s'ajoute, donc, en un mot, moi je dirais que c'est un problème sociétal. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est les reflets de la société congolaise. Rappelez-vous, sans pour autant aller dans les niveaux des réseaux sociaux, même dans des débats libres ou encore dans des matinées politiques, nous sentons quelle est la communication que les hommes politiques donnent à leurs militants. Rappelez-vous, nous sommes dans un pays où une autorité de l'époque avait dit « Soyez mon fils, maman Nayo, soyez maman Naye ». À cette époque, Emmanuel Chadar était vice-ministre et ministre de l'Intérieur, vice-ministre et ministre de l'Intérieur. Au lendemain des élections de 2018, il y a eu un grand meeting au TRS Saint-Thérèse. Les gens ont dit « Boma Mouluba Tika Nyoka ». Ici, en RDC. Et donc, ce sont les hommes politiques qui sont à la base de ce genre de discours. C'est en fait le reflet de la société congolaise. L'autre point, vous aviez posé la question, mais pourquoi il y a plus des émissions politiques que sociales en RDC? Mais c'est parce que c'est ça, c'est en fait l'œuvre de l'homme politique congolais. C'est ce qu'on nous donne dans cette société. Il n'y a pas d'autre à donner. Et voilà pourquoi le peuple, ou encore ceux qui sont manipulés, ou ceux qui ne sont pas manipulés, sont facilement captés par ça.
Oui, parce qu'il y a un auditeur qui nous a même écrit, a dit ce que vous venez de dire, avoir seulement l'espace médiatique congolais, vous vous rendez compte que même les chroniqueurs de musique qui étaient autrefois chroniqueurs de musique, ils se sont tous transformés en chroniqueurs politiques. Donc, pratiquement, la politique fait débat et tout le monde s'en mêle, et même ceux qui n'étaient pas appelés à les faire. Merci beaucoup. Et les commentaires fusent de partout. En tout cas, vous êtes nombreux. Hein. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats. Alain Boulodjoie, vous gardez la ligne. Il est temps pour nous de rappeler à ceux qui viennent, à peine de nous rejoindre, qu'ils peuvent aussi participer à cette émission en composant les 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969. Votre intervention en direct.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 10h05, 19h05, rediffusion mercredi à 15h30.
Parole aux auditeurs.
Professeur Kodion Dokouma, on a suivi cette longue série et des auditeurs. C'est vrai, il a le combat numérique. Il est vraiment réel, en tout cas en RDC, jusqu'au point que finalement, on ne sait pas, les débats tournent autour de quoi et qui sont appelés à faire ces débats. Il y a toute une confusion terrible et on peut même redouter que demain qu'il y ait un grand danger pour la jeune démocratie à RDC.
Très grand danger pour la démocratie parce que trop d'informations tuent l'information. Et puis aujourd'hui, la crédibilité sur les messages envoyés sur les réseaux sociaux n'est plus à 100%. Combien de fois n'a-t-on pas annoncé la mort du président Kengo par exemple, alors que les gens savent qu'il est vivant, et finalement on tue même l'utilité sociale de l'outil qui est Internet. Les gens cherchent par d'autres moyens plus sûrs à pouvoir s'informer. Mais ce que Maître Edmond a dit, c'est hyper intéressant, la question de l'identité numérique. En fait, ailleurs, on a fait la continuité de la chaîne entre l'identité administrative avec l'identité des appareils attachés à votre personne. Ça veut dire qu'en France, par exemple, et il fait bien de le dire, j'aime bien sa spécialisation et je l'encourage, lorsque vous achetez un téléphone, même votre numéro e-mail, donc les numéros de l'appareil, pas de la carte SIM, est identifié en votre nom. Et donc, ça vous donne une responsabilité. Lorsque quelqu'un vous dit, passez-moi votre téléphone ou votre connexion par Wi-Fi pour que je puisse faire telle transaction, vous lui dites, faites attention, parce que si vous faites quelque chose de mal avec la connexion et avec l'adresse IP, la police va venir remonter jusqu'à mon identité. Donc, c'est toute la chaîne de distribution des téléphones qu'on vend ici au Congo et des ordinateurs, de laptops.
Donc, la toute dernière opération de la RPTC, ça se justifie.
Ça se justifie de pouvoir créer une base de données qui permette d'éviter la rupture de faisceau dans un continuum entre l'identité de la personne et tous les appareils qu'il utilise dans son quotidien. Cela est d'autant plus important que même les véhicules que nous avons sont également des objets connectés. Donc il existe plus d'objets connectés, nos montres également, plus d'objets connectés sur Terre qu'il y a des humains. Et donc, partout ailleurs, en Chine c'est magnifique, en France également c'est la même chose, l'identité numérique correspond avec une identité physique, de sorte que la peur du gendarme vous suit même dans l'utilisation de votre WhatsApp, dans votre Facebook, en sachant que même si j'ai mis un pseudo, on peut remonter jusqu'à mon identité et donc on fait des activités plus saines. Donc je salue Maître Edmond en ce sens. Maintenant, lorsqu'on regarde Monsieur Franck d'Autriche, il dit oui, c'est la vitesse, c'est ça le web 2.0. Chacun de nous est producteur de l'information. Les égaux médias, lorsque j'appelais quelqu'un avec mon téléphone filaire, je n'appelais que cette personne. Mais aujourd'hui, les égaux médias sont devenus des masses médias. Chacun de nous produit l'information. Et je lis cela avec le précédent intervenant qui a parlé de la régulation avec le CESAC. En fait, le CESAC, on a parlé avec le président Tito Ndombi, et je le salue et je lui demande de revenir sur ça. Il dit dans la loi de 1996, la presse en ligne, tout ce qui est Internet n'était pas là. Alors on ne peut pas faire une extension. Qu'est-ce que nous faisons? On attend la loi, et c'était le député Tony Mouaba, je le dis pour Maître Edmond, qui avait, est-ce qu'on attend la loi ou est-ce que le CESAC peut déjà prendre des mesures prudentielles, comme le fait par exemple la Banque Centrale, qui est également l'autorité de régulation de la monnaie, mais le CESAC est l'autorité de régulation de l'information. Je lui ai fait savoir qu'en France, on a pris une décision assimilant la presse écrite à la presse audiovisuelle, parce qu'on est un écran. Vous remarquez même qu'on vous envoie maintenant de la pub d'un réseau pour vous dire non, nous pouvons aussi vous aider à accéder à la télévision, alors que vous n'êtes qu'abonné du téléphone. Donc maintenant, quelles sont les solutions qui peuvent être données? Monsieur Franck d'Autriche parle de l'éducation. Oui, il existe ce qu'on appelle la netiquette. Ce sont des soft laws. Hein. On ne peut pas tout régir avec le droit étatique sur Internet, parce qu'Internet est un espace sans shérif. Les fondateurs d'Internet l'ont construit comme une cathédrale sans plan. Ça veut dire c'était un endroit où tout le monde pouvait entrer, et la liberté reste l'élément zéro de l'architecture d'Internet. Bien sûr, on a mis des éléments sécuritaires. La netiquette, c'est l'éducation et la socialisation qu'on doit avoir sur Internet. Par exemple, on n'écrit pas un message en majuscule en quelqu'un. Ça, sur Internet ou sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'on a gueulé la personne. Vous comprenez? Et puis, ici, on tutoie tout le monde sur Internet comme si vous étiez des amis. Donc, il y a la CNIL en France qui vient donner le cours de civisme numérique aux enfants. Ça veut dire qu'on apprend aux enfants que l'Internet n'est pas un lieu, mais l'Internet est un lien. Ça veut dire que lorsque vous entrez en connexion sur Internet, en fait, vous entrez également dans les sphères juxtaposées des vies privées des gens. Et vous devez avoir une certaine politesse, une certaine éthique. Observez, est-ce que vous voyez les sextapes ou les infox produits par les enfants européens? Je ne pense pas.
C'est de moins, bon, pas tellement.
Pas tellement, oui, pas parce qu'il y a cette netiquette qu'ils suivent. Et puis la pénalisation a toujours montré ses limites. Hein. Tout le monde est devenu un peu un cybercriminel en puissance, parce que l'élément de cybersécurité fait de tous les internautes les acteurs de la sécurité globale d'Internet. Maintenant, comme on ne peut pas faire la sécurité à 100% zéro infotox, c'est qu'on fait, on a fait le système de dénonciation pour la cessation à la minute de la violation alléguée. Je donne un exemple. On poste quelque chose qui porte atteinte à Donald Trump, ou ce qui s'est passé à l'époque avec Sarkozy. Dans les 2 minutes qui suivent, on l'efface. Essayez de mettre un contenu sexuel sur Facebook ou sur Twitter. Je pense que ça ne va même pas survivre. Ça va même pas survivre 5 minutes. Mais seulement ici, le Congo n'a pas la coopération avec les GAFA. Google, Amazon, Facebook, Apple, sur la régulation des contenus. Nous l'avons fait dans, parce qu'on est quand même un expert international. Lorsque quelqu'un a vu qu'on a utilisé l'homonymie, ça veut dire on a créé un compte sous son nom. Mais il nous a fallu, nous qui vous parlons, d'un coup de fil quelque part à l'étranger pour qu'on puisse effacer.
Mais parce qu'il y a une loi aujourd'hui, pourquoi le gouvernement ne prendrait pas parole, langue, par exemple, avec le groupe Facebook et les autres, pour que finalement, nous avons vu ça après les élections des États-Unis, le compte de Donald Trump à un certain moment a été surveillé des fautes à comble par les Facebook.
Absolument. Je vous donne
et même le compte Twitter.
Je vous donne un exemple de démocratie, non plus sur la liberté d'information, mais sur la liberté de manifestation. Vous savez que pour que les États-Unis soutiennent les manifestants hongkongais qui s'opposaient à la Chine sur la question de l'arrestation et de l'extradition sur le continent, vous savez ce qu'ils ont fait? Apple a désactivé l'option de géolocalisation sur toutes les téléphones à Hong Kong, de sorte que la police ne puisse pas faire la filature informatique et que la liberté de manifester soit optimale.
Voilà.
Donc, c'est pour vous dire que cet instrument qu'on appelle Internet, il est possible de pouvoir le réguler, de pouvoir le contrôler. dans ce que nous sommes en train de dire, de coopérer donc avec les GAFA. L'exemple, il est donné, hein. Il faut, on lit, celui qui lit voyage à moindre frais, et la science appartient à celui qui a lu la veille. Donc, on donne une solution. 18e siècle, Sa Majesté la Reine d'Angleterre était forte, pas parce qu'elle sillonnait tous les océans, mais parce qu'elle avait juste mis les bateaux avec des bonnes armatures sur des coins précis de navigation, et elle faisait la police avec les puissances portugaises et espagnoles. Ce qui se passe aujourd'hui avec Internet, pour faire la sécurité, il faut avoir la coopération avec les GAFA. Vous dites à Google que si quelqu'un lance le mot-clé « Kabila doit partir » ou qui dit « Fachi ceci oui. », vous lui dites que pour son accès ici au Congo, que ce ne soit pas possible ou que vous l'orientez. C'est ce
donc
qui se passe.
Limiter l'accès à l'Internet avec des mots-clés.
Des mots-clés. Donc, voilà. C'est ce qui se passe en Chine. En Chine, lorsque vous lancez dans un moteur de recherche, il n'y a pas Google là-bas, un contenu qui n'est pas correct avec...
Indésirable.
On vous réoriente au besoin vers un site de dessin animé. Ça, on l'a vécu également.
Voilà. Je crois qu'on va poursuivre avec les auditeurs. Alain Bolodjoa qui nous a rejoint, Peter et Amos de Bukavu. Alain Bolodjoa, vous êtes avec nous. Le temps pour nous de rappeler d'abord à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qui peuvent aussi participer à ces débats sur Radio Capi avec... Professeur Kodjon Dokouma, 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69 pour votre intervention en direct.
Identité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité. Sa richesse a un rendez-vous sur Radio Okapi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes, et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Identité culturelle, c'est tous les samedis à 8h30, dimanche à 10h05 et mardi à 13h30.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci d'écouter Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue. Et dans parole aux auditeurs, Alain Bolodjoa, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Radio Okapi, bonjour au prof, bonjour à tout le monde.
Le militantisme politique dans les réseaux sociaux, enjeu ou défi pour la jeune démocratie en RDC, selon vous?
Bon, moi je crois que c'est plus un enjeu. Et dans une faible mesure, un défi. Parce que c'est vrai, l'Internet ou la communication aujourd'hui est accessible à un grand nombre de Congolais. Parce qu'avant, la communication se faisait dans un sens. Mais aujourd'hui, il y a possibilité de communiquer sans passer impérativement par des médias classiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir des vraies informations comme de fausses informations, mais ce qui est vrai, dans tout ça, il y a possibilité d'établir, il revient aux uns et aux autres de voir ce qu'ils veulent avoir comme information. Parce qu'il y a la volonté des individus qui jouent aussi dans une certaine mesure. Mais ce que nous n'acceptons pas, c'est de voir qu'il y a une forme de dérive. Parce que tout le monde se permet à tout faire, à mettre à la place publique des informations, qu'elles soient vraies ou fausses, mais essentielles pour les personnes qui utilisent abusivement l'Internet, c'est justement pour chercher à salir X ou Y. Et là aussi, ça nous aide, dans une certaine mesure, à ne pas être brimé par, à être apprivoisé ou sinon dompté à la classe politique. Parce que généralement, avec le mécanisme de censure, hein, de presse classique, on a tendance à donner l'information en retard, mais aussi à sélectionner ce qu'il faut faire passer. Et pourtant, avec l'Internet, on a la possibilité de voir qu'il y a tel fait qui s'est fait en ce moment, au moment précis. Je prends le cas du procès qu'on a eu avec Barnabé Ouimana. Il fait une émission en ligne. C'était en direct. Et au même moment, tout le monde a eu la même information. Et lorsqu'on l'a arrêté, c'est grâce aux réseaux sociaux que nous avons eu cette information. Et c'est grâce aussi à ces réseaux sociaux qu'on a compris que quand on parlait de l'offense au chef de l'État, c'était justement parce que M. Ouimana a refusé d'appeler M. Félix Tshisekedi président. C'est, ju- justement parce qu'il il n'a pas voulu considérer que M. Félix Tshisekedi ne peut pas être arrêté. Et voilà, on l'a arrêté. Mais si c'était le média classique, lorsqu'on suit par exemple la RTNC, on ne nous a pas montré cet aspect de choses. C'est-à-dire qu'on a sélectionné justement parce que la plupart des médias sont au service des intérêts. Mais avec l'Internet, on a la possibilité d'avoir l'information bien que brute.
Oui, mais aujourd'hui, sur le plan politique, on se rend compte que c'est fortement bipolarisé. D'un côté, ce que qualifient certains observateurs des talibans, et de l'autre, des kabylis. Alors, on se rend compte que finalement, on est en train d'aller vers une guerre fortement numérique.
Non, mais bien évidemment, parce que ce soit le pouvoir, que ce soit ceux qui s'y opposent, on utilise le même support. Parce qu'il n'y a pas que l'intox contre les régimes, il y a aussi l'intox pour les régimes. Parce que lorsque vous suivez, vous voyez le chaîne pro-Félix et le chaîne pro-Kabila. Ils font leur promotion. Et naturellement, ceux qui s'y opposent peuvent aussi utiliser le même support. Mais ce qui est décevant, ce n'est pas en termes de mécanisme, mais c'est plutôt en termes de contenu. Parce qu'au-delà de tout ce que l'on peut dire, chacun de nous a l'obligation de censurer ce qu'il fait, ce qu'il met à la place publique. On doit éviter de propos du genre, on va distribuer les armes pour exterminer tel autre camp. C'est-à-dire qu'on impose aux autres l'intolérance. On ne veut pas respecter le choix de l'autre. Et lorsqu'on n'a pas le moyen de le faire de manière pratique, eh bien, on recourt à ces voies-là. Mais ce qui est important, je voudrais profiter de l'occasion pour conscientiser les uns et les autres. Nous n'avons qu'une seule nation et nous devons plus travailler dans le sens d'affranchir notre peuple de sa pauvreté.
Pour sauver d'ailleurs la démocratie.
D'utiliser la communication pour nuire. Et on doit aussi éviter de restreindre les libertés individuelles. Parce que lorsqu'on le fait, eh bien, on pousse aux hommes, aux uns et aux autres, de chercher d'autres voies.
Comment peut-on expliquer que
quelqu'un soit arrêté pour outrage par le simple fait qu'il a refusé d'appeler M. Félix Tshisekedi président? Ce n'est pas une infraction.
Merci beaucoup, Alain Bolodjoie. Alors, on va prendre Peter qui est à Tshikapa. Peter, bonjour.
Bonjour, M. Gilles. Bonjour à tous les milliers d'auditeurs de la radio Café.
Quel est votre avis, Peter?
Merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. Monsieur Gilles, je suis religieusement l'argumentaire de notre invité et également de Salim Boloda qui vient de grosser quelques lignes, grandes lignes que je devrais moi-même aussi aborder dans le même sens. Mais néanmoins, Monsieur Gilles, il vous souviendra que depuis que notre pays a eu accès à la nouvelle technologie de l'information, tout est vraiment rabaissé, même au niveau de l'enseignement. Je suis en train de donner le cours de la correspondance commerciale aux enfants. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux. Donc je décourage moi-même en particulier, je suis en train de décourager les enfants d'utiliser les réseaux sociaux. Parce que ça réduit même les enfants pour écrire des phrases correctement en français. Alors, ce que je voudrais un peu aussi argumenter par rapport à ce débat, c'est que nous avons tous décrit le comportement actuel des utilisateurs des réseaux sociaux qui cherchent à tout prix conserver ou soit la deuxième dignité en faveur des autres. Et aussi le message d'intoxication, comme l'autre vient de souligner, c'est ce que nous écrions actuellement dans les pays et nous savons que également, même dans l'administration, tout se passe sur les réseaux sociaux. Alors ce que je devrais demander, c'est que le gouvernement doit prendre, à travers son ministère de la nouvelle technologie de l'information, prendre cette tâche à main pour que nous puissions mettre fin à cette histoire des réseaux sociaux qui met à mal la vie nationale du pays, non seulement à mal la vie nationale, mais également aussi l'enseignement des enfants, l'éducation des enfants.
Merci beaucoup, merci Peter. Voilà, merci beaucoup Peter. Alors Amos, on va terminer avec vous, vous êtes à Bukavu. Amos, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi, en l'occurrence. Je salue l'invité avec ses analyses combien pertinentes.
Quel est votre avis alors?
Au fait, tout le monde avait encouragé la création des réseaux sociaux parce que ça nous a aidé à partager les informations, à bien communiquer. Mais malheureusement, à la lire où les choses évoluent, on est en train de constater que les gens se sont déroutés. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux deviennent, permettant le terme, une poubelle. Où on peut se réveiller le matin, on injurie qui on veut, on oublie tout ce que l'on veut contre n'importe qui, et ça devient très grave. Et cela plus particulièrement dans notre pays. Nous essayons de voir aujourd'hui ce qui se passe sur les réseaux sociaux JR. C'est très grave. Malheureusement même, nous sommes en train de constater que les réseaux sociaux parviennent à influencer même nos dirigeants à prendre des décisions. Il suffit qu'on mette une pression sur les réseaux sociaux, bonnes ou mauvaises, et directement nos dirigeants aussi parviennent à prendre des décisions différentes, et c'est ce qui est très dangereux. Il y a, le prédécesseur venait de parler que non, sur les réseaux sociaux, au moins chaque cas aujourd'hui a ses partisans, déjà qui parlent de la Kabylie, d'autres qui parlent des talibans. Tout ça c'est vrai, et il faut voir, malheureusement, que même les dirigeants sont derrière de tels propos. Et c'est là où il y a danger. Voilà pourquoi moi je soutiens qu'il est déjà grand temps, et l'urgence s'impose, que notre Assemblée nationale y travaille. En proposant un
la loi Tony Mwaba doit être déjà discutée
et les
voilà, pour régler le problème. Merci beaucoup Amos, on ne sera pas allé plus loin. Le cap était de conclure avec notre invité professeur Kodjo Ndokouma. Vous êtes expert en cybercriminalité et également acteur politique. Alors nous avons suivi les uns et les autres. Comment mettre fin à ce militantisme dans les réseaux sociaux et qui pourrait mettre à mal notre jeune démocratie?
On dit bien faire et faire savoir. En fait, dans les réseaux sociaux, en fait, on est en train de ramener les faits de la réalité dans les réseaux pour mieux les diffuser et le diffuser en grand nombre et en toute liberté. Je dirais à monsieur Christian qu'à part tout ce qu'il a dit, il y a aussi des gens qui ont dit Boma député, Tika policier. Et aujourd'hui, au lieu, voilà, c'est aussi quelque chose. Je dirais aussi à monsieur Alain Bolodjoa, que bon, moi j'ai pas refusé d'appeler le président Fachi, l'appeler président Félix dans le groupe, c'est juste pour rire un peu, mais c'est pour dire que on remarque que c'est l'offense au chef de l'État qui est l'infraction la plus punie en rapport avec l'atteinte à l'image sur Internet. Il y a le cas Henri Maggi, il y a eu le cas également Gécoco, il y a aujourd'hui le cas comment il s'appelle
Monsieur
Barnabé.
Donc,
en fait, dans ce pays, lorsque par exemple le Roubaix-Roi se plaint d'avoir été victime d'être vilipendé, il n'y a pas d'infraction là-dessus, mais la police, le parquet a le record de la condamnation des infractions contre l'irréputation, donc la réputation électronique, pour l'offense à chef d'État. On demandera que cette protection de cybersécurité, il faut le dire, ne soit pas simplement limité à la personne du chef de l'État, que chaque fois que les gens sont injuriés, que les gens portent plainte en disant telle personne bien identifiée derrière son téléphone m'a injurié, qu'également on puisse avoir cette politique de tolérance zéro des infractions qui portent sur irréputation. Et puis, il y a la responsabilisation des administrateurs de groupes WhatsApp. Vous savez, lorsque vous avez votre site internet, comme sur Radio Okapi, et j'ai vu qu'on a désactivé les commentaires, c'est parce que celui qui est le tenancier de la place d'échange virtuel, qui est le responsable de tout ce qui s'y passe. Dans les législations comme au Sénégal, on ne peut pas avoir un régulateur derrière chaque téléphone. Tous les groupes WhatsApp, on enregistre les noms des administrateurs de groupes WhatsApp. Pas parce qu'ils disent dans un mariage, voilà, moi comme fonction dans mon CV, je suis administrateur de groupe WhatsApp et avoir un peu d'honneur, mais c'est une responsabilité parce que là,
en même temps,
le contenu est défragmenté. On parle de la délinéarisation. L'État n'a plus un contenu linéaire sur le continuum éditorial des chaînes et sur les logos. Les informations sont délabellisées. Alors, il faut aller de manière distributive, redonner cette responsabilité à celui qui tient un groupe WhatsApp, à celui qui tient un profil Facebook avec ou une chaîne YouTube avec un certain nombre d'abonnés. Ce sont ceux-là qu'on identifie, et tout ce qui se passe sur leur chaîne d'abonnés de 15 000 personnes, sur leur page Facebook de 30 000 personnes, ce sont ces gens-là qu'on poursuit. Alors, là, nous arrivons à la fin, mais vous avez donné l'exemple de Printemps arabe, mais moi je vous dis qu'il a existé la radio des mille collines au Rwanda, qui a amené le génocide aujourd'hui. Autant l'information peut servir au printemps arabe, autant Radio Mille Collines a existé et ça peut permettre au peuple de s'entretenir.
Et il est temps pour nous de prendre soin de de l'information telle qu'elle est diffusée au niveau des différents réseaux sociaux. Pour bien les gérer, il faut les faire maintenant qu'attendre quand le pire arrivera. Merci beaucoup, en tout cas, professeur, docteur, Kodjo Ndokouma, semble-t-il qu'à Kinshasa, au Congo, les professeurs, bien qu'on ajoute les logos et les qualificatifs, docteur.
Bon, monsieur Kodjo, ça
monsieur,
va.
Monsieur Kodjo, de Kouma, professeur, et merci de nous avoir honoré de votre présence. Nous rappelons que vous êtes expert en cybercriminalité et expert, acteur politique.
J'enseigne le droit du numérique à l'université protestante. Un nouveau cours qui existe depuis 2 ans. Droit du numérique.
En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine pour un autre débat. Mais merci également à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission, Dieudonné Niangassa et Marcel Ngombombala. Cette émission vous a été coordonnée, présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. A très bientôt pour un autre numéro de Paroles aux auditeurs. Et d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.